Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie. Et cette semaine, c'est une journaliste, réalisatrice et autrice que je reçois. Le parcours de Natacha est assez incroyable. Après avoir réalisé de nombreux films et documentaires pour les plus grandes chaînes de télé françaises, Natacha se retrouve presque du jour au lendemain, au chômage, en deuil de sa sœur et de sa meilleure amie, et avec une hernie discale qui l'empêche quasiment de marcher. Natacha décide alors de commencer à appliquer des techniques de chaman et guérisseur qu'elle a rencontrées tout au long de son parcours de réalisatrice, et a commencé à soigner ses blessures émotionnelles et familiales. En s'en libérant, Natacha a retrouvé la santé, le bonheur et un travail qui l'épanouit encore plus, et elle nous partage dans cet épisode les clés qui lui ont permis d'y parvenir. Si vous appréciez écouter InPower, c'est en vous abonnant et en parlant autour de vous que vous pouvez le plus le soutenir. Et si vous êtes extra, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et me partager en commentaire vos retours sur InPower. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Natacha qui a le streamé. Bonjour Natacha.
Bonjour Louise.
Bienvenue sur InPower.
Ah bah merci de m'avoir invitée, je suis tellement contente.
C'est vrai, moi aussi je suis vraiment ravie de te recevoir. Je connais un peu ton parcours, après j'essaie toujours de pas trop fouiner non plus parce que sinon je trouve qu'on est moins surpris pendant l'épisode. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Alors, avec plaisir, je suis journaliste. Romancière, je suis réalisatrice de films, j'ai réalisé 31 films pour la télévision, dont 6 prime time, j'ai fait pendant 10 ans de l'animalier, et puis ensuite je me suis intéressée à tout ce qui touche à la santé, à l'environnement, et puis voilà, tout allait bien pour moi, et à un moment donné de ma vie, j'ai connu l'enfer, ça a duré 4 ans, j'ai mes manuscrits qui m'ont été refusés par mon éditeur. Les films que je proposais n'étaient pas acceptés. Je me suis retrouvée au chômage et plus d'argent. J'ai super mal vécu. Et puis, il y a eu comme ça différents événements. J'ai perdu ma petite sœur. J'ai perdu ma meilleure amie ensuite de harcèlement conjugal. Et à la fin, au bout de 4 ans, j'ai même eu une double hernie discale. Donc en fait, tous les domaines de ma vie étaient touchés. Comme je pleurais tous les jours, même sentimentalement, mon mari, je n'en pouvais plus. Il m'a fallu ce problème de santé pour réaliser à quel point j'allais mal, à quel point j'étais vraiment au bout du bout du bout du rouleau. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis allée voir un médecin, j'ai vu des choses, médecine conventionnelle, des psys. La chance que j'ai eue, d'une certaine manière, Louise, c'est que ça n'a pas fait grand-chose. Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille trouver ailleurs. Et là, je me suis souvenu que j'avais interviewé des chamans, des guérisseurs, des énergéticiens. Et ils avaient partagé avec moi leurs techniques. Bizarre, parfois. Donc moi, j'étais curieuse, un peu dubitative, en me disant, il faut être un peu naïf pour imaginer que ça peut marcher. Mais j'ai plus rien à perdre. Donc je fais les choses en tenant compte de leurs pratiques. Et ça marche. Ma double hernie discale, je l'enlève au bout d'un mois et demi. Sans intervention chirurgicale. Et il y a d'autres choses qui se sont améliorées plus lentement, au bout de 6 mois, d'autres au bout d'un an. Toujours est-il que, même tu vois, au niveau sur le plan professionnel, à l'époque, j'ai une activité, avant j'avais une activité professionnelle assez dense, mais on ne s'intéressait pas à moi. Tu ne m'aurais jamais contactée. Les journalistes ne me contactaient pas, je n'avais pas de presse. J'étais invisible, professionnellement, transparente. Et je suis sûre qu'à travers ta communauté, ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, j'ai pas un retour sur investissement. » En tout cas, pas à la hauteur de ce que je pense
mériter. Voilà. De mon investissement personnel.
Voilà. Et donc, du coup, ma vie change complètement. Et mon mari me dit « Partage ça dans un livre. » Sauf que je me sens pas légitime.
Est-ce que jusqu'alors, t'avais écrit déjà ou pas? Parce que tu réalisais,
oui, ouais.
Mais est-ce que t'avais déjà écrit?
J'avais écrit des polars.
D'accord.
J'avais écrit des polars, le
donc
testament
de la fiction,
des abeilles, la fiction, tout à fait, où je partageais à la fois, ils viennent de sortir en poche, sous l'égide de Polar Guérisseur, mais à la fois des choses qui me permettaient, moi, qui m'avaient permis de me transformer, mes enquêtes journalistiques assez serrées, assez poussées, et puis des intrigues, parce que je donne aussi des cours de scénario à l'école du cinéma, etc. Donc voilà, j'aime bien tout ce qui est histoire, qui nous prend par la main. J'étais rentrée aussi en contact avec la police judiciaire. Enfin, dans toutes mes démarches, j'aime que les choses soient étayée sur le côté journaliste, on vérifie trois fois ses sources, etc.
Il y a un côté presque scientifique dans les enquêtes journalistiques, je trouve.
Complètement, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Donc c'est ça, mes romans, ils sont sortis, ça marche, mais pas hyper bien. Bon, j'ai un succès d'estime, mais c'est tout, si, puis je ne suis pas interviewée et tout. Et donc mon mari me dit, partage ça dans un livre, et ça je lui dis, mais ouais, mais moi je ne me vois pas partager simplement sur ma simple expérience, ça n'a pas de sens. Et puis là, il y a des gens qui vont me solliciter, l'entourage, des amis, des proches, pour m'en demander de les aider. Et je vais partager avec eux aussi ces rituels chamaniques ou énergétiques. Ça va marcher aussi pour eux. Et là, je me dis, tiens, il y a un truc. Et donc, je vais proposer des ateliers de 2016 à 2019, 800 ateliers, chaque fois 30 personnes. Et à ma grande surprise, Louise, il y a le corps médical qui vient de se former, médecin. Psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, infirmier, ostéopathe, énergéticien aussi. Et là, je me dis, bon, ok, il y a un truc fort, ça marche. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit La clé de votre énergie. Et la chance que je dirais que j'ai eue, c'est que le livre est sorti quelques semaines avant le confinement. Les gens se sont retrouvés tout seuls chez eux, pas pouvoir sortir, à se rendre compte qu'ils n'allaient pas bien. Et ils cherchaient des solutions, des choses à faire tout seul de manière autonome. Et comme le livre propose donc ces rituels chamaniques, si tu veux, je les ai transformés en protocoles pour que ça soit digeste, scientifiquement acceptable. Et il y en a 22, voilà, pour se libérer émotionnellement, pour retrouver notre énergie. Voilà, j'ai tout donné.
Génial. Voilà, bon, il y a déjà beaucoup de choses qui me viennent.
Ouais.
Je vais te poser la première question que je me suis posée en t'écoutant.
Oui.
C'est, si je retiens, tu as eu ces 4 ans d'enfer, quoi,
de galère
absolue.
Ouais.
Comment on fait dans ces moments-là pour ne pas perdre la foi? Tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas lâché l'affaire, en fait? Parce que là, ce que tu nous dis, coup sur coup, c'est très dur, quoi.
Eh ben, je vais te dire un truc, c'est que je ne me suis pas rendu compte que je n'allais pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que j'ai ma double hernie discale où, en fait, il n'y a pas une position où j'ai pas mal. Allongée, je pleure. Debout, je pleure. Assise, je pleure. Je me rappelle d'un déjeuner avec des amis où je suis entre assise et debout. Je ne sais pas comment me tenir.
Ouais.
Tellement j'ai mal.
Ouais.
Tellement j'ai mal. Donc, en fait, c'est le corps. Il est là pour nous dire, fille, il y a un problème là. Tu ne te rends pas compte que tu es en bout de course. Parce que j'ai, comme beaucoup de gens, la blessure de l'injustice. Et quand on a la blessure de l'injustice, on vit de l'injustice. Les autres nous font vivre de l'injustice. Nous, on fait vivre de l'injustice aux autres. Mais on se fait vivre aussi de l'injustice à soi-même. Et quand on se fait vivre de l'injustice à soi-même, eh bien, on est injuste envers nous-mêmes. Et donc, on ne voit pas qu'on ne va pas bien. C'est typiquement la blessure qui amène au burn-out, qui amène à la dépression. C'est « je vais bien, je vais bien ». On est comme ça. Je vais super bien, non mais tout va bien, tu vois l'idée? Voilà. Et donc je suis dans cet état-là.
Et là tu fais référence aux 5 blessures de l'âme ou de manière plus générale? Parce que moi la blessure de l'injuste, ça me fait penser au livre de Lise Bourbeau,
bien sûr,
les 5 blessures de l'âme.
Ouais.
Que j'avoue, alors je trouve le premier très complet et je me suis reconnue, tu vois, moi dans certaines blessures, assez impressionnant. Le deuxième, qui est un peu le guide pour t'en débarrasser de ces blessures, parce que c'est bien beau de savoir que t'as la blessure d'injustice, mais si tu sais pas comment la dépasser, ça sert pas grand-chose. Et alors, très décevant, quoi. Enfin, je trouve pas du tout efficace et probant.
Je te rejoins un peu, pour pas dire beaucoup. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Et dans ma démarche, donc moi j'en ai pas 5, j'en ai 10. C'est-à-dire il y a la trahison, il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'humiliation, il y a la justice, il y a aussi la colère, qui n'a rien à voir.
D'accord.
Il y a les peurs, qui n'ont rien à voir. Il y a l'impuissance, qui n'a rien à voir. Il y a colère, peur, impuissance. Tristesse et colère, peur, tristesse, impuissance. Ah, s'il me manque le dernier.
Je vais 10, c'est beaucoup.
Non, mais je vais retrouver.
Ouais, retrouve et puis on
culpabilité.
D'accord.
C'est autre chose.
Ouais.
Se sentir coupable, ça n'a rien à voir avec l'injustice, ça n'a rien à voir avec l'abandon. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Pour moi, c'est un truc vraiment... Et la culpabilité, si tu veux, c'est une blessure qui est super importante dans le sens où c'est celle qui fait appuyer sur la pédale de frein et dans, la, dans le sens je suis pas dans mon plein potentiel parce qu'au fond de moi, je me sens coupable de quelque chose et donc je mérite pas d'être dans ma pleine lumière. Et donc, il y a des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à se lancer dans une nouvelle activité, qui n'arrivent pas à briller à 2000%, qui brillent simplement à 100%, parce qu'elles appuient sans, totalement inconsciemment sur la pédale de frein, surtout quand, par exemple, si on a un frère ou une sœur avec qui on a été comparé, et si on a été préféré, si je me mets un peu plus en lumière, elle va ou il va un peu plus souffrir. Et donc, on ne se rend absolument pas compte qu'on appuie sur la pédale de frein. C'est un autoblocage. Voilà. Et cette culpabilité, c'est vachement important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Purée, je comprends pas. »
C'est vrai. C'est vrai. Et alors, comment on fait pour s'en rendre compte ? Est-ce que c'est en lisant ton livre, par exemple, qu'on peut se reconnaître dans une forme de portrait ? Parce que comme tu dis, la plupart des temps, c'est inconscient. Et puis, il y a des gens qui veulent pas vraiment y croire, tu vois, qui se disent « Non, mais ça peut pas être ça, c'est trop tu vois, perché ou
incohérent. » Alors, moi, ce que je propose, c'est un exercice ultra simple qui permet de savoir où on va. Et puis, je propose surtout qu'est-ce qu'on fait pour... c'est ça qui est important. C'est pas tout de poser un doigt sur la blessure. Bon, on fait quoi derrière ? Bon. Donc, les personnes, je les invite, ta communauté, à penser à quelque chose auquel, qu'ils aimeraient améliorer. J'aimerais gagner plus d'argent ou ne plus avoir peur de ne pas avoir d'argent. J'aimerais trouver l'amour. J'aimerais ne plus avoir de problèmes de santé. J'aimerais être reconnu à ma juste valeur. J'aimerais cesser d'être comparé par mes parents. Bon, on note le truc. J'aimerais avoir un enfant. On note le truc qu'on aimerait améliorer, en tout cas qui nous pèse parce qu'on n'y arrive pas. Puis on ferme les yeux et on se pose la question. Comment je vis le fait de ne pas y arriver, tu vois ? Et on va, je vais dire ces 10 blessures et on va se dire, est-ce que je le vis comme une forme de trahison ? Est-ce que je le vis comme une forme de rejet ? Est-ce que je le vis comme une forme d'abandon ? Est-ce que je le vis comme une forme d'humiliation ? Est-ce que je le vis comme une forme d'injustice ? Ou plutôt, est-ce que je le vis avec beaucoup de colère, avec des peurs ? Ou comme une infinie tristesse, ou plutôt comme une culpabilité, ou avec de l'impuissance. On va noter 2 ou 3 émotions qui nous parlent. Par exemple, je sais pas, moi, imaginons colère, tristesse, injustice.
Ouais.
Ça te va ?
Ça me va.
Bon. Et là, on va noter, donc on note ces 3, et on va noter le prénom de notre maman. Et on va se dire, est-ce que ma mère a vécu ce même problème ? Si oui, on met même problème sur le papier. Sinon, et ou même en plus, on va se dire, et maintenant, est-ce qu'elle a vécu, de mon point de vue, de ton point de vue, si tu le fais, tu n'as pas besoin de l'appeler en lui disant, est-ce que tu as vécu de la colère, machin. De ton point de vue, est-ce que dans sa vie, elle a vécu de la colère ? Ah ben ouais, une colère non exprimée, mais ouais, de la colère, il y avait la colère en elle par rapport à je sais pas quoi. Est-ce qu'elle a vécu, on avait dit quoi, colère, injustice et tristesse. Est-ce qu'elle a vécu la tristesse ? Ah ouais, quand sa mère est morte par exemple. Ah ouais, c'est fou. Bon. Et de la colère et de donc l'injustice. Oui, quand par exemple si elle a eu une fausse couche, elle a vécu une très grosse injustice. Voilà. Bon. Donc on note ce truc là et on va noter à côté protocole 6+ à faire avec notre mère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce protocole, on va récupérer l'énergie que notre maman nous a prise, parce que nos parents nous prennent de l'énergie. Dès qu'ils souffrent, ils nous déstabilisent, ils nous prennent de l'énergie. J'explique dans le livre comment. Si tu veux, on pourra y revenir si on a le temps et si tu le souhaites. Et puis, le plus, ça c'est le protocole 6, reset énergétique, je récupère l'énergie que j'ai perdue, et je vais me libérer en même temps, émotionnellement, des fardeaux de ma mère. Pourquoi ? Ça, c'est l'épigénétique qui l'a montré, c'est-à-dire que scientifiquement, c'est prouvé. Quand quelqu'un vit une épreuve, ça transforme l'expression de ses gènes. Sa descendance, qui n'a pas vécu la même épreuve, a aussi une même modification de l'expression de ses gènes. Et la petite descendance encore, pareil. C'est-à-dire que donc, la science a prouvé qu'il y avait une transmission, ce que les psys appellent la mémoire transgénérationnelle. Ça ne s'explique pas. Mais, et là, pour le coup, c'est très concret. On voit cette transmission, si tu veux. Et donc, simplement à travers ce protocole 6+, avec notre maman, eh bien, on va faire en sorte de se libérer de ce fardeau émotionnel en lui disant, ça, c'était ton fardeau, c'est ton épreuve, je m'en libère comme tu peux t'en libérer.
Et alors, la question qui me vient, voilà, titre vraiment très personnel, hein, parce que je sais que ma mère a vécu des épreuves difficiles, donc je pense que la mémoire intergénérationnelle est lourde.
Oui.
Mais du coup, elle s'est protégée, entre guillemets, en coupant pas mal de toutes ses émotions.
Ouais.
Et donc, je sais qu'elle ne serait pas du tout ouverte à l'idée qu'on fasse un protocole ensemble.
Mais
comment on fait si personne n'est pas forcément,
elle est
volontaire?
Non, ta question, elle est géniale. Parce que tu ne vas pas le faire avec elle.
Ah d'accord, je pensais que tu disais c'est un protocole à faire avec...
Sans elle.
D'accord, génial.
C'est-à-dire
okay. Donc si on n'a plus nos parents ou s'ils ne sont pas partants, c'est pas grave.
C'est même mieux.
D'accord.
Je vais te dire, c'est que... C'est même mieux, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quand la personne, un grand-parent par exemple, est décédé, si on croit à la survie de la conscience... Ça regarde chacun. En tout cas, moi, j'y crois, parce que j'ai mené beaucoup d'expériences là-dessus. Eh bien, l'âme de la personne, son énergie, est désireuse de réparer. Donc, les choses vont beaucoup plus vite.
D'accord.
Mais il est hors de question que tu appelles « Maman, j'ai un truc à gérer avec toi. »
J'aimerais aller mieux. Peux-tu être disponible pour ce protocole ?
Écoute, tu vas entendre des trucs. Je sens que ça va aller beaucoup mieux pour moi, mais pas pour toi. Non, tu vois ?
D'accord.
Donc, tu le fais tranquille dans ton coin, à 2h du mat si tu veux.
Mm-hmm.
Peinard tranquille, toute seule, avec simplement en imaginant ta mère en face de toi et c'est un message d'âme à âme.
Mm-hmm.
On poursuit l'exercice, on note le prénom de notre papa.
Mm-hmm.
Et on fait la même chose. Est-ce qu'il a vécu la même épreuve que moi ? Oui ou non. Et ensuite, après, on se pose la même question sur les blessures. Colère, dans nos exemples, injustice et tristesse. Ah ben oui, injustice, quand il s'est fait piquer l'héritage par ses frères et sœurs, j'ai n'importe quoi. Colère, oui, son père était très autoritaire et lui, il était très autoritaire aussi. Donc, il y avait cette colère qu'il a exprimée, etc. De son... bon, voilà. Et à nouveau, on note protocole 6+, qu'on va faire avec notre père. Et on va se faire ce même exercice, si tu veux, avec la famille élargie, les grands-parents, les oncles, les tantes, si on a des infos. Si on n'a pas d'infos, ça veut dire que c'est pas grave. Le 90% du boulot se fait avec les parents.
Ouais.
Il y a des fulgurances, Louise. Il y a des fulgurances, c'est-à-dire qu'il y a des trucs. Par exemple, il y a des gens qui me disent des fois « Purée, je ne sais pas pourquoi, je me sens sous contrainte, je suis en colère, je ne comprends pas, tout m'énerve. Et même, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je surréagis. » Je ne sais pas si tu as rencontré des gens comme ça.
Ouais, c'est vrai. Des gens un peu à fleur de peau, quoi, presque.
Ouais.
Ils sont dans une situation où tous les triggers, quoi.
Voilà. Et tu leur demandes pourquoi tu réagis comme ça, et ils sont presque à te dire, j'en sais rien.
Mm-hmm.
Héritage transgénérationnel. Ça veut dire qu'avant, il y a eu des personnes qui ont été sous contrainte. Et quand on cherche bien, imaginons notre mère, elle a été sous la contrainte de, par exemple, pas travailler pour élever tous ses enfants. Contrainte. Notre père, imaginons qu'il a été sous la contrainte de faire un boulot plutôt qu'un autre. Contrainte. Imaginons que le grand-père, il a été obligé de faire la guerre.
Et en plus, là, c'est, y en a beaucoup, quoi.
Il y en a beaucoup, mais tous les grands-parents.
Ouais.
La grand-mère qui est obligée d'élever ses enfants alors que le grand-père n'est pas là. Et elle a 5 marmots. Contrainte. Ça fait une surcharge au niveau de la famille de personnes qui ont vécu des contraintes. Et nous, on a connu le confinement, les machins et tout, on nous dit des contraintes et on se dit... Je ne peux plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce poids familial qui vient alourdir la charge et qui fait que c'est insupportable. Et j'ai vu des personnes, Louise, faire des protocoles avec leur père et leur mère et un grand-père d'ailleurs qui avait fini, qui était mort pendant la guerre et qui, à la fin de la séance, me disait « Ouais, mais en fait... l'univers, le monde change, on nous demande de nous adapter. » La fille, elle avait presque changé de philosophie, je te jure, je ne la reconnaissais pas. Tu te rends compte à quel point ça impacte notre façon de réagir et de surréagir.
Et alors, ce que je trouve assez incroyable dans ce que tu décris, c'est que c'est immédiat.
Alors,
et
ça,
tu
c'est
vois,
une bonne
c'est, enfin, parce que on y reviendra. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis sur et tes expériences par rapport au monde plus scientifique, plus médical, versus un monde qui est quand même plus ésotérique et énergétique. Mais c'est entre guillemets le problème, je trouve, des thérapies, des psychanalyses, etc., qui durent quand même des mois, parfois des années, sans forcément avoir de résultats probants. Donc, d'après ce que tu me dis, toi, c'est à la fin de la séance, il y a eu un changement d'état d'esprit.
Alors, complètement. Alors, ce que je veux dire, c'est que là où il faut faire attention, et c'est là où ta question elle est super intéressante, c'est que c'est pas miraculeux, c'est pas une baguette magique.
Ouais. Attention. Qu'est-ce qu'il l'est, hein, j'ai envie de dire.
Attention. Et parfois, il y a ce côté waouh, parce qu'avant, il y a peut-être eu des psys qui ont préparé le terrain.
Ouais.
D'accord ?
Ouais.
Il n'empêche que sur ce côté libération de fardeau émotionnel, il y a des fulgurances. Et tu vois, au moment où je réalise que ma grand-mère était invisible, d'accord ? Que moi aussi, c'est mon problème. Et que je récupère ce rituel pour se libérer des fardeaux émotionnels, je ne dis rien à personne. Je le mets en pratique le soir même, le soir. Le matin même, il y a RTL qui m'appelle pour un de mes polars qui est sorti 6 mois plus tôt. Tu viens de sortir un livre, tu sais sans doute qu'un livre, c'est 3 mois de mise au jour et c'est exceptionnel quand ça dure plus que ça. 6 mois après, il m'appelle pour un polar, enfin le truc. Là, j'ai dit, waouh. Donc, il peut y avoir de réelles fulgurances. Je repense à une autre femme, une femme un peu plus âgée, qui, elle, il y a dans Trouver ma place un protocole qui est le protocole 7+, qui est un protocole que l'on fait quand on a fait des interruptions de grossesse, qu'on a connu des fausses couches ou des pertes d'enfants jeunes. Nous, ou notre mère, les grands-mères, etc. Parce qu'il y a, à travers la fausse couche, l'interruption de grossesse ou la mort d'un jeune enfant, il y a deux mots qui sont associés, qui ne vont pas ensemble. C'est naissance et mort. Naissance et mort, ça ne va pas ensemble. Il y a quelque chose du non-sens de la vie. Et parfois, il y a des gens qui se disent « Purée, mais moi, je ne suis pas de cette planète. Je ne me sens pas en accord avec cette planète. » Ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place, parce qu'ils ont hérité de ces âmes qui se sont incarnées de manière très courte, le fait de ne jamais avoir de place. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle jamais d'eux, parce qu'il y a de la tristesse, il y a de la culpabilité, il y a parfois de la honte. Donc, ils n'ont jamais eu de place. Et le protocole, il consiste à dire aux âmes qui se sont incarnées de manière si courte, je donne ce prénom. Déjà, on va leur donner un prénom, tu vois ? Et puis, et patati patala, enfin voilà la suite. Et je me rappelle de cette femme où là, où tu, par rapport à ce que tu disais, il y a un côté immédiat, c'est que donc cette dame, qui a une quarantaine d'années, elle fait ce protocole, elle avait fait une fausse couche elle aussi, et puis elle me dit ma mère et ma grand-mère en tout, il y a eu 12 pertes ou d'enfants, interruption de grossesse, machin, 12. Et je lui dis, faites ce protocole, elle me dit, ça me parle pas du tout. Je dis, faites-le, ça va vous prendre 5 minutes à lire le livre. Faites-le, s'il vous plaît. Elle le fait devant moi. Elle est comme ça, Louise. Elle a fini le protocole. Elle s'est redressée. C'est comme, si tu veux, une chape de plomb était sortie d'elle. C'est un truc de fou. Ça, je l'ai vu. Voilà. Donc, il peut y avoir comme ça des fulgurances. Maintenant, si tu veux, par exemple, par rapport à des personnes de ma famille... moi, tout mon problème d'invisibilité n'a pas été réglé simplement parce que j'ai fait avec ma grand-mère. Il a fallu que je fasse tout un travail pour comprendre des choses sur ma famille, des absences de paternité, de maternité, de choses où les personnes n'avaient pas, comment dire, la visibilité qu'ils auraient sur le plan familial. Et ça a duré, voilà, des années où je me suis dit, tiens, mais avec un tel, j'ai jamais fait, il y a ça. Et donc, petit à petit, en le faisant... C'est travail de toute une vie, j'ai envie de dire. Et ben voilà, aujourd'hui j'ai de la visibilité, ça veut dire que je me suis libérée, on va dire, d'une majeure partie, peut-être j'en ai oublié, hein, une majeure partie de personnes qui étaient dans l'ombre, qui étaient invisibles. Tu vois, dernièrement, j'ai déjeuné avec une productrice, elle me dit, je fais un travail fou, mais je me sens pas valorisée dans mon travail autant que je le mérite. Bon. Et je lui dis, peut-être que dans ta famille, il y a une personne qui, pour qui être invisible, c'est vivre. Et là, elle fait... Oh, elle me dit, mon arrière-grand-mère, au moment de la Première Guerre mondiale, elle est obligée de se cacher dans la grange, sous la paille, pendant un mois, sinon elle meurt. Donc, être invisible, c'est vivre. Mmh. Et si au fond d'elle, elle me disait, c'est comme si je m'empêchais de me mettre en lumière, parce qu'elle a hérité de ce fardeau. Quelqu'un qui a été violenté sexuellement, qui a eu des attouchements, et il y en a dans toutes les familles. Être invisible, c'est être arrêté d'être emmerdé. Mmh. Donc, et nous, on se dit, je ne suis pas dans mon plein potentiel. Ben oui, parce que j'ai hérité de ce côté de, si je suis invisible, on me fout la paix.
Et est-ce que je me dis, voilà, s'il y a des personnes qui n'ont pas conscience de ça, par exemple, si cette femme n'avait pas su que sa grand-mère s'était cachée dans une grange, est-ce que du coup, mieux vaut faire peut-être tous les protocoles pour être, pour entre guillemets, maximiser nos chances, quoi ? Est-ce que même si on n'a pas conscience de l'origine du problème, on peut quand même en être libéré en le faisant ?
Ouais, non, c'est important de savoir ce que c'est. De savoir précisément, de pouvoir nommer mamie, t'as été violentée par ton cousin, être invisible pour toi, c'était arrêter d'être... Ou tu vois, par exemple, imaginons, mamie, tu étais fine, ton seul moyen qu'on te arrête d'être ennuyée sexuellement, c'était de prendre du poids et de t'enlaidir. Mmh. Tu vois ? Et moi, de mon côté, je sais pas pourquoi, comment je grossis. Il y a plein de gens comme ça.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Eh ben, c'est pas ta nature.
Mais donc, il faut savoir que ta grand-mère a été violentée sexuellement, ce que c'est pas toujours, quoi.
Voilà. Et alors là, si tu veux, en commençant le travail sur le protocole 5, qui est en fait un reset énergétique suite à une épreuve, c'est-à-dire que quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie, quelle que soit l'épreuve. Mm-hmm. Une baffe d'un parent quand on est tout petit, un déménagement, on perd tous les copains, un accident de voiture, la grand-mère qui décède, n'importe quoi, une mauvaise note qui vraiment nous plombe et nous humilie, tu vois, on perd de l'énergie. Donc le protocole 5, il sert, on le fait toujours pareil, tout seul, on n'a besoin de personne, et on va le faire pour récupérer l'énergie perdue, et on n'a même pas besoin de citer les trucs. Donc là, mais même on peut ne pas se rappeler des trucs que tu vois, ce qu'on appelle les mémoires traumatiques, on ne se rappelle pas qu'il s'est passé des choses difficiles, c'est pas grave. On va faire le truc une fois, tout va bien. Mmh. Et en commençant ce travail, c'est comme si tu veux, il y avait une partie de notre énergie, de notre âme, qui exultait en disant, elle est en chemin pour se guérir. Et là, étrangement, et je l'ai vu des centaines, pour ne pas dire des milliers de fois, il y a des informations qui arrivent. Ah, j'ai commencé à faire les protocoles, j'ai retrouvé le carnet intime de ma mère. J'ai commencé à faire protocole. Il y a ma tante qui m'a dit que ma grand-mère avait fait 5 fausses couches. Les infos viennent. Donc, on peut mener une enquête, c'est vachement bien. J'ai des personnes qui ont vraiment fait des travaux sur le plan transgénérationnel et tout, c'est super. Maintenant, en commençant un travail pour récupérer l'énergie, faire ce travail, il y a des informations qui vont venir très étrangement. Voilà.
Ouais. Bon, pareil, plein de questions que je me pose. Une des principales questions que je me posais, c'est comment t'en es venue à connaître ces protocoles ? Et peut-être avant ça, c'est quand tu pars, si j'ai bien suivi, hein, faire ces reportages où tu vas à la rencontre de chamans, d'énergéticiens, de thérapeutes.
Ouais.
Déjà, pourquoi ?
Ouais.
Et qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là ? Parce que c'est un monde, en fait, tellement inconnu.
Ouais.
Alors, c'est marrant, parce qu'en plus, en ce moment, si vous écoutez le podcast, vous entendrez bientôt aussi un épisode avec Jonathan Lehmann, qui est un ami que je reçois pour la troisième fois. Ça va être le seul que j'ai reçu autant de fois, mais qui sort un nouveau livre sur son voyage chamanique.
Ouais.
Donc bon, ça m'intéresse vachement. Et il s'avère qu'en plus, je rencontre de plus en plus en ce moment. Et donc voilà, je suis curieuse que tu nous partages un peu tes découvertes. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu étais quand même réceptive à ça ? Parce que c'est très difficile quand on vient d'un milieu très cartésien, de vraiment absorber peut-être autant qu'on absorberait si on était un peu plus ouvert d'esprit.
Complètement. Bah, moi, si tu veux, au départ, je fais des films sur... Je réalise des films sur le monde animalier. Je crée une collection qui s'appelle « Les héros de la nature » et qui consiste à mettre en valeur des hommes et des femmes qui donnent leur vie pour sauver les guépards, les baleines, les crocodiles, les chauves-souris, etc. Bon. Et à travers ces voyages, il y a toujours des gens que je rencontre qui sont passionnants. L'homme médecine de tel endroit, le Maasai, l'Oléboni qui est une forme de guérisseur, voilà. Et ça m'intéresse. Je m'intéresse à eux. Voilà. Je prends des notes. Bah, ça, c'est mon côté journalistique. Je prends des notes, je noircis des cahiers entiers où je note leurs techniques, leurs partages, leurs difficultés, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi certains sont devenus chamans. Tu vois, quand je suis partie au Pérou pour le magazine Géo, j'ai interviewé le chaman pour savoir comment il était là, arrivé là, et il m'apprend qu'il a 4 ans, qu'il est en train de mourir d'une maladie grave, et que le chaman du coin est appelé, et on lui dit « Ok, je vais le guérir, mais en échange, il sera chaman. Mm-hmm. » Et le gamin à 4 ans, il accepte.
Attends, c'était il y a 4 ans ou il avait 4 ans ?
Il avait 4 ans.
D'accord, oui, en fait, il ne peut pas être en mesure de décider, vraiment.
Non, mais après, il peut s'arrêter, tu vois, voilà. Oui, il accepte, et donc, c'est à, je crois, 17 ans, où au Pérou, tu pars tout seul pendant un an, quasiment tout nu, dans la forêt, et tu manges ce que tu trouves, tu n'as même pas un couteau, parce que c'est trop facile, et tu manges les plantes.
Et c'est quoi l'idée derrière ? C'est de se reconnecter à la nature
C'est laisser le chamanisme péruvien, c'est laisser la plante enseignante, ce qu'ils appellent les plantes maîtresses, t'enseigner la médecine. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte que les singes, utiliser une certaine pharmacopée, hein, utiliser des choses, et que tout ça, tout venait des plantes, en fait. Mmh. Et donc, ils se sont mis à avoir des rêves, des informations, pour avaler une substance qui est comme une paire de lunettes, en fait, sur la santé des gens, sur des informations. Voilà. Donc, fort de cette expérience chamanique, eux, ils sont là pour guérir. Nous, le monde occidental, on s'est intéressé en fait à ces techniques pour nous, mais on n'est pas chaman.
Non, on n'a pas vécu un an tout nu dans la forêt.
Ah non, on n'est pas chaman. Et même si on prend ce breuvage,
Tu parles de l'ayahuasca là du coup ou pas ?
Oui. Ouais. Mais de plein d'autres choses. Je pèse mes mots, je l'ai fait. Mais c'est extrêmement prétentieux de se dire « je vais utiliser quelque chose que les chamans ont utilisé, après tout ». C'est quelque chose qu'un être, choisit. Voilà, nous, on n'est rien. Et en plus, ce n'est pas notre technique. Et au Pérou, en plus, ils te donnent pas d'explication. C'est « tu fais les choses, tu expérimentes pas pour toi-même, et normalement, tu as un an pour comprendre les choses ». Alors que le monde occidental, eh ben, quand tu vas voir un psy, ouais, j'ai vécu ça, j'ai fait tel rêve. Alors pensez-vous que ça puisse avoir un lien avec. On t'aide. Donc ça n'a rien à voir. Donc, bon, voilà. Donc il faut, pour moi, il faut faire un peu attention parce que voilà, tout n'est pas. C'est pas approprié pour moi, je pense.
Ouais.
Tu vois ?
Ouais.
Côté occidental. Et en plus, il faut avoir vraiment les pieds sur terre parce que pour peu qu'on ne soit pas équilibré, moi j'ai vu des gens vriller, ne plus jamais revenir. Vriller.
De retraite chamanique
Vriller, c'est-à-dire perte de pied totalement.
D'accord. Comment tu l'expliques
Parce qu'il faut extrêmement équilibré, parce que c'est une claque dans la tête tellement importante que si t'es pas droit sur tes pieds, tu manges très cher et tu peux ne jamais t'en remettre.
Non, bon, c'est sûr que c'est une expérience, comme tu dis... Enfin, voilà, c'est des psychédéliques hein, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore. Ouais, je pense qu'on en parlera un peu plus avec Jonathan qui du coup, lui, est un adepte, mais dans certaines conditions. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est uniquement c'est leur seule façon de guérir, entre guillemets, les chamans ? Ouais. D'accord, ok. Je pensais qu'il y avait d'autres...
Non.
C'est ayahuasca et puis c'est tout, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est le chaman qui prend cette substance et qui ensuite, à travers ses champs, que la champ médecine, va inviter une personne, un enfant, avec ses parents, se mettre devant lui qui a un problème, et il va avoir accès à l'intérieur, par ses visions en fait, psychédéliques, vision à savoir quel est le problème, et il va demander aux esprits des plantes de soigner et puis de proposer d'arrêter de prendre des breuvages, etc. Bon, là, maintenant, ils sont ouverts aussi aux antibiotiques, à tout ça, etc.
Oui,
bien
ouais,
sûr.
Ouais, ouais.
Mais il y a tout ce travail, et c'est un travail sur l'âme, en plus du travail sur les molécules, sur quelque chose tangible. Mmh. Bon, voilà.
Et ouais. Toi, quand tu es à ce moment de ta vie où tu traverses toutes ces galères et que tu es déçu, entre guillemets, par la médecine plus moderne, tu allais voir qui du coup? C'était pas les... Enfin, t'es allé voir des chamans, t'es allé voir des énergéticiens.
En fait, si tu veux, moi, je fais tous ces reportages et je cumule les infos.
Ouais.
Mais à l'époque, ça va.
Ouais.
À l'époque, ça va.
Donc c'est juste de la curiosité.
C'est de la curiosité. Je suis intéressée, mais comme je disais au début, un peu dubitative.
Ouais.
En me disant, ouais, ils sont gentils, quoi.
Ouais. Ouais, 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 c'est perché. De toute façon,
c'est gentil, ils
sont
gentils, les gars. Mais au secours, quoi. Et si tu veux, moi, la médecine. La première, quand tu vois en conférence, quand je dis si vous êtes malade, première des choses, allez voir un médecin. Pourquoi? Par trois raisons hyper importantes. La première, c'est que quand on souffre, on ne peut pas travailler sur le plan énergétique. Moi, ma double hernie discale, je ne peux plus bouger tellement j'ai mal. Si on me dit, bon alors tu vas travailler sur tes ancêtres, je dis, les gars, je ne peux pas là. Tu vois?
Oui.
Je peux pas. Tu vois? Et parfois, j'ai des gens qui me disent, ouais, j'ai essayé tes techniques et tout, mais ça marche pas. Je dis, t'es allé voir un médecin? Non. Je dis, tu souffres? Oui. Ben voilà. Donc, on enlève la souffrance. Moi, il me donne un myorelaxant et un anti-inflammatoire. Ça va mieux. Le coup de bol, c'est que tout part pas.
Ouais.
Sinon, je m'arrête là.
Oui, parce que. Oui,
mais parce qu'on est tranquille.
C'est le pansement, quoi.
Ben, c'est le pansement. Mmh. On est peinard. Tu vois? Donc, première raison. Deuxième raison. C'est qu'il faut arrêter la prolifération des éléments pathogènes. Que ce soit un cancer, que ce soit une angine, que ce soit une inflammation, eh ben, il faut l'arrêter. Donc, il faut arrêter les... Troisième raison, elle est psychologique. C'est que depuis qu'on est né, on sait qu'on a un problème, on prend un médicament. Mmh. Donc, notre petit cerveau, surtout chez les nanas, on se dit « Ouais, mais chez moi, ça ne va pas marcher. » c'est trop simple. Non?
Donc, ouais, bah en fait, c'est plus de la peur, je pense, qu'autre chose. Hein, mais voilà. Tout le monde a tendance à se croire différent. Et...
Voilà. Et donc, ce mental-là, il faut le calmer. Ouais. Donc, je fais un truc normal. Je vais voir le médecin. Et après, je m'attaque au transgénérationnel et l'énergie. Alors, il y a des personnes qui me disent, ouais, mais alors du coup, si ça va mieux, pourquoi aller faire ce travail sur le plan énergétique? Tout simplement pour éviter que ça revienne.
Oui, et puis entre un 5 sur 10 et un 10 sur 10, autant aller chercher le 10 sur 10, quoi. Parce que
absolument.
Voilà, les médecins peuvent nous apporter qu'un 5, tu vois.
Ouais, mais imaginons que la médecine règle le truc.
Ouais.
Tu vois?
Ouais, ouais.
Imaginons, je vais voir un médecin, il m'opère pour ma double hernie discale, tout va bien. J'ai plus rien. Bon, bah... Deux ans après, rebelote.
Et je crois que c'est dans ton introduction que tu dis que la vie en fait nous amène un problème tant qu'on l'a pas accepté ou qu'on l'a pas résolu.
Absolument.
Et donc ça résonne un peu avec ce que tu nous dis là en fait.
C'est exactement ça.
Ton hernie, elle peut revenir deux ans après si t'as pas compris la leçon entre guillemets qu'elle était venue t'enseigner.
Voilà. Magnifique.
Bon, c'était moi. Merci à tous. Au revoir.
À très bientôt.
Ouais.
Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens, et d'ailleurs les médecins de famille, se désespèrent de voir toujours les mêmes personnes pour les mêmes affections. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas touché l'origine, on a enlevé le symptôme, ce que tu as dit tout à l'heure, le pansement. Donc, du coup, en fait, tant qu'on n'a pas compris le message, la double hernie discale, le message, c'est « j'en ai assez de ne pas recevoir autant » que je donne. En gros, c'est ça. J'en ai plein le dos.
Ouais.
Hein? Ok. Je donne beaucoup et j'en ai pas le bénéfice à la hauteur de tout ce que je donne. Ok. Donc, ben, si j'ai pas compris ce message, il va revenir. Et le message, il est quoi? Il me concerne moi, mais il va concerner aussi ma famille. Qui est-ce qui, dans ma famille, a beaucoup donné sans recevoir autant? Ok. Ma mère? Mon père, ok. La grand-mère, ah ouais, la grand-mère, elle a donné. Elle a donné, mais de ouf. Et elle n'a pas reçu autant. Ok, eh ben, je vais faire un petit protocole 6+ avec ma grand-mère en lui disant, mamie, je t'adorais, j'ai rien à te reprocher. Par contre, tu as donné tellement dans ta vie. D'ailleurs, tu es mort d'épuisement. Et moi, je donne, et je ne reçois pas à la hauteur. Donc, c'était ton épreuve, ce n'est pas la mienne. Je m'en libère comme tu peux t'en libérer. Et hop, les choses.
Et alors, comment tu as réussi à mettre en place ce premier protocole et ensuite le deuxième? Pourquoi déjà ce deuxième avec trouver sa place? Trouver ma place. Voilà.
Ouais.
Parce que, donc, en effet, ça peut être des questions que les gens se posent. Comment, tu vois, ça fait très... Enfin, j'allais dire protocolisé. Oui, c'est le but, c'est un protocole. Mais tu vois, pour savoir voilà, lequel faire par rapport à quoi, c'est pas...
Tu veux dire entre la clé de votre énergie et trouver ma place?
Ouais,
ou
bah déjà, comment t'as défini les protocoles de la clé de votre énergie et ensuite de trouver ma place.
Ok, alors... quand j'écris la clé de votre énergie, je suis sûre qu'il n'y aura qu'un seul livre.
Mmh. Oui. Tu partages ce que toi, t'as
vécu,
quoi.
Je donne tout, tu vois. J'ai des thérapeutes qui m'ont dit, bon, tu t'es gardé des trucs pour un prochain livre ou pour tes ateliers, pour les vendre encore plus cher. Je dis, non, les gars.
Non, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas écrit de livre. Ouais. Mais en fait, tu veux tellement donner le meilleur. Mais moi, pareil, je continue à écrire. Et tu vois, j'étais là, non, mais je veux vraiment tout dire, quoi. Tu vois,
tout le monde ne fait pas ça. Hein.
Ah, d'accord. Okay.
Il y en a, ils mettent un truc et puis... prochain livre, tu vois.
Bon. Ouais.
Moi, j'ai tout donné dans la clé de votre énergie. Et donc, je l'ai construit, mais ça, c'était grâce à mon éditrice, Lise Boel. Je l'ai construit en mettant, comprendre les blessures, deux... Et à l'époque, il n'y en a que cinq. C'est pour ça que dans Trouver ma place, il y en a 10, parce que j'ai compris des choses. Mais je vais y revenir. Deux, comprendre le message du corps, etc. Trois, parler à son corps, pourquoi, quand on a un problème de santé, ce qu'il faut faire, etc. Quatre, c'est un protocole chamanique aussi par rapport à la santé. Cinq, c'est le reset énergétique suite à une épreuve. Six, c'est les fardeaux émotionnels dont je me libère avec ma famille, bon, etc., etc. Et il y en a un pour enlever les brûlures, etc. Bon, tout ça, pour enlever les peurs et tout. Bon. Le protocole de consolation aussi autour de la culpabilité. Bon. Et puis, pour moi, j'ai tout donné. Le livre, il est fini. Youpi. Il marche super bien. Et là, j'ai eu des tonnes de messages de gens qui me disent « Oui, mais moi, je ne sais pas dans quel cas je fais tel protocole. Je ne sais pas où chercher. J'ai tel problème de reconnaissance. » Et je ne comprends pas chez qui je dois chercher le problème, etc. Et en fait, je reçois et je suis ensevelie de messages, de mails sur Facebook, sur Insta, sur mes mails, etc. Enfin, je croule.
Ouais, c'est et dur. Là,
ouais, c'est horrible.
Parce que tu deviens la psy de tous tes centaines de lecteurs.
Et puis c'est surtout, moi, j'ai le syndrome du Saint-Bernard, j'ai envie d'aider tout le monde.
Ah ouais.
Donc, tu vois, j'ai un petit tonneau autour de moi. Bon. Et donc, du coup, je suis malheureuse parce que j'ai envie d'aider les gens, je n'ai pas le temps. Il faut que je pense aussi un peu à moi.
Ouais. Bon.
Et c'est là que trouver ma place a commencé à exister, où je me suis dit, je vais écrire un livre qui va être par thème le travail. Comment retrouver du travail, comment retrouver ma place, comment arrêter le burn-out, etc. Le couple, comment trouver l'amour, en finir avec ses comportements désagréables, etc., etc. La famille, cesser d'être comparé, me libérer des problèmes de ma mère ou mon père qui était très dur, etc., tout ça. L'argent, être bien chez soi, la santé et ensuite le moral. Il y a donc 7 thèmes. Et à chaque fois, si tu veux, je vais lister les occurrences entre tel problème, chercher dans votre famille qui a vécu ça, et faites tel protocole. C'est-à-dire que si tu veux d'en trouver ma place, enfin, ce que je dis souvent, c'est la clé de votre énergie. Pour les personnes qui n'ont jamais travaillé sur l'énergie ou en développement personnel, faut commencer par celui-là. Ça ouvre les portes. Notre façon de voir les choses. Pour ceux qui ont déjà travaillé sur ces trucs-là, etc., trouver ma place, ça, c'est la mise en pratique. Je prends par la main et là, je guide. Et c'est presque un livre qu'on n'a pas besoin de lire en entier. C'est-à-dire, tu vas chercher, tiens, j'arrête pas d'avoir des procès, hop, je vais chercher mon truc. Ou bien, je voudrais aider mon enfant, tac, je vais machin, nan, nan. J'ai des désagréments dans ma maison, hop, je vais regarder les trucs, etc. Je vais chercher, si tu veux, par rapport à ma problématique, et je vais juste lire le paragraphe et voir les choses qui reviennent. Donc celui-là, ce livre n'était pas prévu.
Ouais.
Et je l'ai vraiment écrit pour venir en aide à tous ceux qui ont commencé ce travail et qui ne savent pas comment...
Et qui veulent aller plus loin.
Voilà.
Ouais. Alors il y a une question que je me pose. C'est que, et c'est souvent ce que j'ai pu lire dans des livres qui parlent de l'énergie ou de la loi de l'attraction ou de voilà, comment sortir de schéma, c'est que c'est souvent lié à l'extérieur. Donc c'est souvent lié voilà, au travail, son épreuve dans le travail, au couple. Et comment on fait quand c'est plus de l'intérieur? Que c'est, je sais pas, des personnes qui ont des phobies, ou c'est des personnes qui ont des grosses angoisses, qui sont très anxieuses, je sais pas, des personnes qui sont très jalouses. Enfin, tu vois, comment on règle plus ces déséquilibres intérieurs?
De ma lecture, que ce soit les personnes, que le problème vienne de la personne extérieure ou que ce soit intérieur, l'origine elle est la même. Je t'explique, je m'explique. C'est-à-dire que si, imaginons que au bureau, Alfred, il n'arrête pas de nous faire, de nous harceler, enfin, c'est l'enfer, ok ? Il est, entre guillemets, instrumentalisé par l'univers pour montrer que, finalement, avant lui, donc lui, en me déstabilisant, il me prend beaucoup d'énergie. Il est là, c'est les répliques, en fait, qui reviennent, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Jung, tout ce qu'on n'a pas compris de l'épreuve, ça revient. Donc, si, dans ma vie d'aujourd'hui, à mon âge,
un peu plus de 35 ans, n'est-ce pas?
Non, tu rigoles pas, Louis, s'il te plaît.
Non, mais alors, tu sais, pour moi, j'adore les personnes âgées, tu n'en fais même pas partie, mais je trouve que c'est des personnes tellement sages que oui. C'est une fierté, en fait.
Non, tu t'enfonces, là.
Ah, d'accord. Non, mais en fait, j'ai toujours du mal à... Enfin, j'ai toujours du mal à comprendre. Si, je comprends, mais j'aimerais démocratiser le fait de ne pas avoir honte de son âge.
Non, mais je plaisante, parce que je me sens...
C'est vrai que t'as pas l'air d'être le genre de personne qui le vit mal.
Je me sens 22 ans dans ma 22, c'est la fille omnibilée 22 protocole.
J'ai 22 ans dans ma tête.
Donc non, je me sens absolument pas vieille, tout va bien. Je sais pour rire. J'ai perdu un peu le fil. Alors attends, qu'est-ce que je disais?
Tu disais donc la personne se fait harceler.
Ouais, voilà.
Et ça lui revient le problème. Voilà, et pour toi, c'est la même chose intérieur extérieur.
En fait, si tu veux, c'est que elle se fait harceler dans son boulot ou dans son couple. Elle vit des trucs difficiles dans son couple. Ça montre juste qu'avant, il y a d'autres personnes, ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être son frère ou sa sœur, ça peut être un cousin s'il y a eu des attouchements, des choses comme ça, qui là, lui a fait perdre de l'énergie avant. Et en fait, le problème qu'elle vit dans, actuellement lui montre qu'il y a eu d'autres choses avant et qu'elle a pu en hériter de sa famille. Mmh. En ce qui concerne les phobies, les grosses angoisses, même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans ma lecture, d'ailleurs, il y a dans Trouver ma place, ce qu'il n'y a pas du tout dans la clé de votre énergie, dans Trouver ma place, il y a carrément un chapitre compilé sur les tocs et les phobies. Bon. Mm-hmm. Pour moi, une phobie, c'est en lien avec des peurs héritées des deux côtés de la lignée. C'est-à-dire que ça veut dire que, dans la lignée de ma mère, il y a eu des très grosses peurs. Peur de perdre un enfant. Peur d'être de divorcer, peur de perdre un emploi, peur de perdre un père ou une mère. Beaucoup de peur. Ça peut remonter jusqu'à la grand-mère, peur de mourir pendant la guerre. Côté du père, même chose. Peur énorme, etc. Et dernièrement, il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit, ma fille de 8 ans, ou non, 6 ans, enfin je ne sais plus, un truc comme ça, a une phobie, elle ne peut pas dormir toute seule. Bon. Elle a des peurs terribles, elle ne peut pas, et elle vient dormir dans notre lit, et c'est insupportable, on ne peut plus, bon. Et je lui dis, double peur héritée, phobie. Bon. Et d'ailleurs, il me dit un truc incroyable, il me dit « La psy ne veut plus la voir parce que notre gamine n'arrive pas à exprimer pourquoi la peur. » La pauvre fille, elle peut pas deviner.
Bah oui.
Non mais au secours.
C'est très dur. En plus, ce sentiment de ne pas savoir pourquoi...
Et en plus, on va la culpabiliser. Enfin, voilà. Au secours. Ouais. Bon. Donc, je lui dis « Dans ta lignée, il y a eu des peurs. » Elle me dit « Oh là là, oui. » Et il me dit « Pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ma mère me disait que elle se cachait sous le lit dès qu'elle entendait les pas des Allemands marcher. Et tout d'un coup, je le vois faire ça, il me dit « Oh, je suis en train de réaliser un truc. » Ma mère me disait qu'elle s'enfermait à clé dans sa chambre. Ça donne un fichier de poule. Ça a parlé à quelqu'un. Et elle me dit « Quand elle arrive dans notre chambre, ma fille, elle veut fermer à clé derrière. » Je dis « Et peur héritée du côté de la maman aussi. » Et il me dit « Ça, je ne sais pas, je n'ai pas l'info. » Il me dit « Mais ma femme est autrichienne. » Il y a des chances qu'elle ait vécu aussi des peurs, ou en tout cas s'aligner. Mmh. Voilà. Et donc, simplement, en disant à l'enfant, tes peurs, ce n'est pas les tiennes. Elles sont héritées de mamie Janine et de un tel et un tel. parce qu'ils ont vécu des choses terribles pendant la guerre, déjà, l'enfant, il va se calmer directement. Nous, le fait de le savoir, c'est la moitié du boulot. Mmh. Et simplement, si on a plus de 18 ans et qu'on est volontaire pour faire ces protocoles, etc., eh bien, en faisant ce rituel chamanique avec ceux qui ont eu peur, en disant « t'as peur, elle impacte ma vie. J'ai des angoisses, je ne sais pas d'où elles viennent. Je ne comprends pas. » Moi, j'ai des mamans qui me disent « j'ai peur pour mon enfant, je le pose à l'école, je suis dans l'angoisse totale, tous les jours. » Je dis « héritage transgénérationnel, est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a perdu un enfant ?»« Ah oui ?» Je dis, ben, cherchez pas. Vous avez trouvé. Vous allez faire un protocole avec la personne qui a perdu son enfant en disant, tu as perdu un enfant, tu as eu peur. Ou tu as cru perdre cet enfant, tu as eu peur. Et moi, ça se rejoue dans ma vie. C'est terminé. Ce n'est pas mon épreuve. C'est la tienne. Cette épreuve t'appartient. Je m'en libère comme tu peux t'en libérer.
Du coup, je me demande s'il y a des personnes qui souhaitent mettre en place ces protocoles, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vraiment ça fonctionne, ou qu'en tout cas on maximise nos chances de réussite.
Ok, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent avoir commencé à faire des choses et en disant tiens, ça marche pas à la hauteur de ce que j'attends, ou en tout cas j'ai pas vu vraiment les bénéfices. Tant qu'on ne voit pas les bénéfices, c'est qu'on a oublié soit de faire les recouvrements d'âme, c'est-à-dire récupérer notre énergie. Il faut commencer par le protocole 5, il faut le faire en premier. Ensuite, il faut faire le protocole 6 avec donc il y a ce reset énergétique auprès de toutes les personnes qui nous ont pris l'énergie, souvent malgré elles, en commençant par les parents. Nos parents nous ont pris l'énergie, c'est sûr. Si la personne n'a pas fait avec son père et sa mère, bon, bah, il va manquer quelque chose. Et du coup, quand on va faire les autres protocoles, il y a une partie d'énergie qui n'est pas à l'intérieur de nous, du coup, qui n'est pas informée. Donc en fait, tant qu'on n'a pas récupéré toute cette énergie, eh bien, ça peut ne pas marcher. Après, par exemple, imagine, moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, je l'ai fait avec mon père, je l'ai fait avec ma mère, je l'ai fait avec mes ex-collègues et je l'ai fait avec mon conjoint actuel. Est-ce que vous l'avez fait avec vos ex-petits amis? Et la fille, c'était à une conférence, elle dit, oh non, et en plus, il y en a beaucoup.
Voilà pourquoi il faut commencer jeune.
Voilà, exactement. Mais carrément.
C'est cool. Mais bah, ouais. Moi, ça me motive.
Ouais, mais carrément. Et elle me dit, oh purée, je ne l'ai pas fait avec un tel. Je dis, voilà, tout simplement. Et tu vois, il arrive aussi parfois que des personnes me disent, j'étais petite, j'avais 8 ans, j'ai été un peu attouchée par mon cousin ou par mon frère, etc. Et tout ça. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur le problème, il n'y a plus de problème. Il y a vol d'énergie majeur parce que il y a je fausse ta vision du couple, je fausse la relation à l'amour. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a la trahison. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et encore récemment, il y a une dame comme ça qui l'a fait, qui m'a dit non, mais ça n'a pas la peine. Le sujet est clos. J'étais petite, je ne me suis pas vraiment rendu compte. Elle a pleuré en faisant le protocole. Elle me dit, je ne m'attendais pas.
Mais c'est inconscient, quoi.
Je m'attendais. Parce que pourquoi? Parce que sur le plan intellectuel, le travail est fait. Sur le plan psy, le travail est fait. Sur le plan énergétique, non. Et donc, si jamais on a eu ces trucs-là, où par exemple, ouais, bon, j'avais 14 ans, il avait 18 ans, c'est vrai que c'était dur, je l'ai mal vécu. Ouais, mais en fait, je n'ai jamais fait de protocole avec lui. Eh bien, s'il manque cette personne, eh bien, ça peut ne pas marcher. Et donc, voilà, il faut d'abord récupérer l'énergie auprès de toutes les personnes qui nous ont pris de l'énergie, malgré elle, hein, parfois. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut, avec la famille, justement, récupérer se libérer des fardeaux émotionnels. Voilà. Et parfois, il nous manque une information et on peut demander aussi au guide, alors je l'explique à travers le protocole 11, merci mon guide de m'indiquer à travers les rêves ce que je dois comprendre pour me libérer de telle peur. Ou de, voilà.
Voilà, des informations qui peuvent...
Voilà. Ou merci mon cher guide, merci l'univers, hein, pour les gens qui sont plus cartésiens, merci l'univers de mettre sur mon chemin le thérapeute qui me permettra de comprendre d'où vient mon fardeau émotionnel, le fardeau émotionnel qui me pèse. Parce que parfois, pour soi, c'est compliqué de voir les choses.
Ouais.
Et parfois, le thérapeute, il va servir à ça. Et il va te dire... Vous avez été en couveuse quand vous étiez petite?
Oui.
Vous avez une énorme blessure d'abandon et le problème, il vient de là. Mm-hmm. Et faire un protocole de consolation, ce protocole 9, par rapport à ça, eh ben, ça peut changer tout. Et on n'avait jamais conscientisé que le problème de la couveuse quand on est petit, ouais. Et ça peut avoir un impact. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que je suis jumelle.
Bah, moi aussi, du coup. Voilà. J'ai eu la couveuse, pas ma sœur.
Voilà.
Ouais.
Et ben, on est trois dans un. Il y a le corps de la maman, il ouais. y a la jumelle, on est trois. Et tout d'un coup, on est tout seul. Mmh. Voilà. Et ben, c'est lourdissime. Mmh. Et si ça dure un mois, la grossesse ayant duré, moi, pour moi, 8 mois, mmh. si je représente ce un mois par rapport aux 8 mois de vie, c'est un dixième de vie. C'est comme si j'avais vécu seule. Imaginons, je vis 90 ans. C'est comme si j'avais vécu 9 ans toute seule. C'est monstrueux.
C'est fou, on se rend tellement pas compte. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de recherches. Après, je ne sais pas comment on pourrait ouais. le faire, mais sur ça, tu vois, sur les... Enfin, même la grossesse, quand on ouais. est dans le ventre, ouais. Ouais. et les premiers mois, les premiers jours de la vie, ouais. on a vraiment très peu d'infos sur les impacts ouais. psychologiques que ça ouais. peut avoir sur le long terme, alors que c'est apparemment vraiment le plus c'est tôt, plus c'est traumatique. Quoi.
Stan Grof a fait toute sa carrière autour
ah ouais.
de ça.
Ouais, d'accord.
Ouais, 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 sur la vie prénatale et sur...
Ok, très intéressant, qui a lui... inventer entre guillemets une respiration holotropique
ouais,
qui simule entre guillemets les effets ouais, de la LSD donc ouais, avec moins ouais, de ouais, de danger. Bon alors j'ai encore des questions pour toi, je vais essayer d'être rapide parce que le temps file.
Ouais.
Je me demande juste à titre personnel pour toi, qu'est-ce que ça a changé en fait, tu vois, toutes ces découvertes, ce changement de carrière, ce changement de vie, est-ce que tu as eu l'impression d'une renaissance, est-ce que tu as l'impression d'avoir je sais pas, tu vois, est-ce que entre guillemets ça a invalidé qui t'étais avant parce que t'étais pas vraiment toi-même, enfin, je me demande quoi, ce genre de bouleversement, qu'est-ce que ça change?
Écoute, tu vois, c'est marrant, mais un apaisement intérieur mmh. qui est tellement grand que quand je regarde des photos de moi il y a 5 ans et maintenant, je me trouve plus jeune. Je te jure, mmh. y a un truc, une sérénité en moi, parce que il y avait un côté mort de faim en moi. Mmh. Tu vois, il y avait un côté mort de faim parce que je me sentais pas reconnue et je bossais comme une malade. Mmh. Mais j'en avais pas la reconnaissance. Donc ça me crée une frustration, parfois de la colère. Mmh. Et sans compter le reste au niveau de la vie, où il y avait des drames et des choses comme ça. Donc il y a un apaisement, il y a des épreuves qui s'éloignent. Je dis pas qu'il n'y a plus rien, parce que la vie est un apprentissage tout le temps et que la moindre épreuve est une occasion d'ouvrir les yeux sur quelque chose que je n'ai pas encore compris. Mmh. Voilà. Mais la vie est plus douce. Je me sens complètement à ma place et c'est vrai que mon vrai bonheur aujourd'hui, c'est pas tellement d'avoir du succès, mon vrai bonheur aujourd'hui, c'est de voir combien ça aide des gens. Mmh.
C'est ce qui nourrit le plus l'âme.
Voilà. Mmh. Tu viens d'écrire un livre, tu sais que tu l'as écrit pour cette raison aussi, enfin, en tout cas c'est ce que je sens de toi, c'est cette envie d'aider mmh. les autres, de partager quelque chose qui t'est cher. Et moi, quand des personnes viennent me voir dans les salons ou dans une conférence, à peine ils me disent bonjour, ils me disent merci, ça fait chaud au cœur.
Ouais.
Donc ça, je suis comblée.
Ouais, on le ressent. Ouais.
Il y a une plénitude. Mm-hmm. Je me sens bien. Voilà, c'est ça. Et donc ça change tout.
Ok, bah écoute, c'est ce qu'on souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent. J'ai 2 dernières questions pour toi. Si tu pouvais conseiller un livre qui t'a marqué, pour le coup, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, lequel est-ce que ce serait?
Alors, j'ai envie de dire qu'à travers mon expérience, moi j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Et le voyage permet de se confronter à qui on est vraiment. Parce que c'est en voyant la différence... de nourriture, de paysager,
confort,
de ouais. confort médical, etc., ou même de pensée, qu'on réalise comment nous sommes, et nos manques, et la chance que l'on a. Et donc, pour moi, le voyage, c'est ce qui permet le voyage intérieur, et moi, c'est ce qui m'a nourri. Mmh. Et j'ai envie de dire que comme ça fait 2 ans qu'on n'a pas beaucoup voyagé, tous les livres qui permettent de voyager, les livres de fiction, notamment ceux de Romain Gary, Les Racines du Ciel, c'est tous ces livres qui voilà, Les Racines du Ciel de Romain Gary, on part en Afrique, on voit ces éléphants qui surgissent de nulle part, avec cette poussière qui est soulevée, on ne voit pas les éléphants, on ne les entend pas, mais on voit déjà ce nuage de poussière qui arrive. Et déjà, on est en Afrique avec cette odeur, cette chaleur. Et tout ce qui nous permet de voyager, et ben pour moi, c'est ce qui permet d'ouvrir les yeux sur notre propre cœur.
Ok, bah super, je mettrai ça dans les notes du podcast. Je vais te poser la dernière question, la question signature d'InPower. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
C'est ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Ouvrir les yeux sur nos propres faiblesses. Voilà, c'est... Ne faites pas comme moi, n'attendez pas d'être au fond du rouleau. Voilà, le pouvoir de sa vie, c'est réaliser qu'on est faillible, réaliser qu'on a des blessures et des blessures héritées et qu'on n'est pas nul, on est juste porteur de certains héritages dont on peut se libérer et c'est la bonne nouvelle.
Ouais, c'est la bonne nouvelle. Et écoute, merci pour ce podcast plein d'espoir. C'était passionnant. N'hésitez pas à envoyer un message si vous nous écoutez à Natacha sur Instagram. Je mettrai ça dans les notes du podcast. Pour toi, merci. Ça fait toujours plaisir.
Avec grand plaisir.
Et j'ai passé un très bon moment. Donc merci encore, Natacha, et j'espère à très vite.
Merci, Louise, pour ton implication, ton partage. Et je te souhaite beaucoup de succès.
Merci beaucoup. À très vite, au revoir.
À très vite.
Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en nous taguant @natachakalestremé et @mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, il y a plus de 200 épisodes qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.